Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre des séminaires qu'organisait par le GANIL et l'UFR Sciences de l'Université de Caen, qui reprend après la période de pause due au Covid, c'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui M. Philippe Despons, maître des conférences émérites à Sorbonne Université à Paris. Il travaille à l'Institut des nanosciences de Paris dans un groupe qui fait des simulations numériques des matériaux, dans lesquelles les propriétés quantiques des atomes légers, surtout l'hydrogène, ne sont pas négligeables. Il a aussi beaucoup enseigné différents sujets en physique, du L1 à M2, surtout en physique numérique. Et il a écrit également plusieurs livres de vulgarisation, dont celui-là, L'entropie et tout ça, que vous trouvez aussi à la bibliothèque de l'université. Et à l'occasion des 150 ans de la formulation de l'équation de Boltzmann, aujourd'hui, il nous présente en séminaire Ludwig Boltzmann, un monde peuplé d'atomes.
Donc, moi, au nom de l'UFR des sciences, je voulais remercier notre conférencier de venir nous instruire sur Boltzmann.
Bon, merci donc pour toute cette présentation, etc. Donc, c'est un plaisir de parler de Boltzmann. Je remercie les organisateurs de m'avoir rappelé que c'était les 150 ans de l'équation de Boltzmann, parce que ça m'avait échappé. Alors, Boltzmann, c'est un personnage déjà qui est sympathique. C'est un grand scientifique, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement sympathique. Il était adoré par ses étudiants. C'était quelqu'un dont les cours étaient extrêmement vivants, plein de plaisanteries, d'astuces, etc., de beaucoup d'esprit. Et en plus, limpide. Il y a des textes de Lise Meitner, qui est une grande physicienne allemande, qui a découvert la fission de l'uranium, je crois. À Berlin, il y a un Hahn-Meitner-Institut. Donc, c'est une grande physicienne autrichienne d'abord et allemande ensuite, qui dit, les cours de Boltzmann, c'était génial. En plus, c'était un prof qui avait un petit peu de mal à mettre des mauvaises lettres aux étudiants. Il y a plein d'anecdotes concernant Boltzmann. En particulier, à un moment, il avait un lapin ou des lapins, je ne me rappelle plus, dans son bureau. La raison pour cela, c'était que sa fille avait adopté un lapin, mais Madame Boltzmann ne voulait pas de lapin dans sa maison. Donc le lapin s'est retrouvé dans le bureau du Herr Professor. Voilà. Alors, donc on va parler de cette équation de Boltzmann. Alors, on ne va pas étudier l'équation elle-même tellement, c'est des maths. Alors d'abord, il faut quand même se rappeler que c'est un des fondements de la physique statistique qui est tout à fait actuel. Je vous rappelle que la médaille Fields de Villani, donc un mathématicien, c'était pour ses travaux autour de l'équation de Boltzmann à un moment. D'accord. Donc, ce n'est pas des choses si anciennes que ça. Le but aujourd'hui, ce n'est pas tellement d'étudier l'équation elle-même, mais de regarder, d'étudier un petit peu les concepts sous-jacents. De quoi on parle quand on parle de l'équation de Boltzmann? Voilà. Et donc, ça parle de thermodynamique et de chaleur. Donc, on va se poser des questions sur la chaleur. Alors, voilà à quoi ça ressemble. L'équation de Boltzmann, bon, c'est des maths, il y a des opérateurs. Oui. Est-ce que ça marche, ça? Est-ce que vous voyez le... Ah, si, il est là. Donc, il y a des opérateurs, le D-rond, là, etc., c'est un opérateur de dérivation. Les nabla, donc les triangles à l'envers, là, c'est des opérations d'opérateurs de dérivation, etc., etc. Finalement, peu importe, ce qui va nous intéresser le plus là-dedans, c'est le petit f, si j'arrive à pointer dessus, voilà. Ici, le petit f qu'on retrouve partout, là, qui est la fonction qui est solution de cette équation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce f? Alors, les mathématiciens s'en fichent de savoir ce que c'est que ce f, mais nous, les physiciens, on aime bien savoir de quoi on parle. Et donc, f, c'est une probabilité. C'est une fonction de probabilité qu'une particule va se trouver à un endroit donné avec une vitesse donnée à un instant donné. D'accord? Une fois que j'ai dit ça, pratiquement, je peux arrêter le séminaire parce que j'ai dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire dessus. Pourquoi? Alors, d'une part, particule, ça veut dire qu'on est en train de parler d'atomes. D'accord? Donc, on est dans une théorie atomique de la matière. Donc là, on est dans un monde très différent de ce qui était en usage à l'époque. Et en plus, on est en train de parler de probabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de regarder, je ne sais pas quoi, la trajectoire d'un satellite qui va de la Terre à la Lune ou autre. D'accord ? On est en train de regarder des probabilités de présence de particules. D'accord ? On a un grand nombre de particules. On se fiche pas mal de ce que fait la particule X ou Y. Et on ne regarde que des probabilités. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Alors ça, c'est une citation de Boltzmann. Il dit donc l'offensive déclenchée par la mécanique, donc c'est-à-dire on va regarder des particules qui bougent et qui interagissent entre elles, d'accord, dans le domaine de la thermodynamique, est partie de l'idée que la chaleur est constituée par le mouvement des particules d'un corps. Donc, ça, c'est la conception moderne, disons, de la chaleur. Du fait de l'imperceptibilité de ces particules, la chaleur reste invisible à l'œil nu. Elle n'est perçue que comme sensation de chaleur que lorsqu'elle se communique aux molécules de notre corps. Tout ça, c'est un discours que vous avez sans doute entendu déjà au cours de vos cours de thermodynamique pour les étudiants ici. C'est le genre de choses qu'on peut raconter à nos étudiants à l'heure actuelle. Voilà. Alors, cette équation, elle sous-entend un certain nombre de choses, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc une théorie atomique et une physique statistique. OK. Alors nous, on a un peu l'habitude, mais à l'époque, c'était assez étranger aux démarches des physiciens. Donc on est fin 19e siècle, d'accord, et la physique, ce n'était pas ça du tout à l'époque. D'accord. Alors le problème, c'est que évidemment personne n'a jamais observé d'atomes. Là, je ne vois pas des atomes devant moi, je vois des gens, mais pas des atomes. Hein. Y a aussi l'idée que si on s'occupe de statistiques, de probabilités, etc., bah, c'est un système qui est un peu désordonné, ça bouge dans tous les coins, d'accord, et c'est un peu dérangeant d'une certaine façon. Donc ça fait beaucoup d'hypothèses tout ça, finalement, on dit en quelques mots. Et c'était assez difficile à avaler à l'époque, parce que bon, une bonne physique, c'est une science empirique bien sûr, doit s'en tenir à des grandeurs mesurables, donc pression, température, etc. D'accord. Et par exemple, quelqu'un comme Ernst Mach, qui était un contemporain de Boltzmann, qui était un grand physicien, hein, le nombre de Mach, hein, qui mesure la vitesse par rapport à la vitesse du son, pour les avions de chasse en particulier, c'est d'après Mach. Alors Mach disait, bon, y a une nécessaire économie d'hypothèses. Il ne faut pas mettre des hypothèses qui ne servent à rien dans une théorie. D'accord ? Et donc, lui, il trouvait que toutes ces hypothèses sous-jacentes aux théories de Boltzmann, c'était bien compliqué, c'était beaucoup d'hypothèses qui, finalement, n'apportaient pas grand-chose, donc il ne croyait pas du tout aux atomes. Alors, ce que dit Boltzmann de tout ça, c'est, on se méfia de toute hypothèse, on limita la tâche de la théorie à la description pure et simple des phénomènes, donc ce qu'on observe, hein, les phénomènes, c'est ce qu'on observe, description qui ne devait en aucun cas dépasser le cadre des données expérimentales. Voilà, c'est clair, d'accord. Donc, voilà le problème que se posait Boltzmann quand il devait défendre ses théories. Alors, on va essayer de se poser un certain nombre de questions. D'une part, théorie atomique, en quoi est-ce que ça pose problème, d'où ça vient? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est la chaleur? Qu'est-ce que c'est que la chaleur? Bon, on fait de la thermodynamique, c'est la chaleur. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chaleur? D'accord. Et on va parler un petit peu de l'irréversibilité, qui est un des problèmes sous-jacents à la thermodynamique. Alors, je vous rappelle de quoi il s'agit rapidement. L'irréversibilité, vous mettez deux casseroles en contact, une chaude, une froide, et au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec deux casseroles d'eau tiède. D'accord. Et puis simplement, si vous faites le contraire, vous prenez deux casseroles d'eau tiède et vous les mettez ensemble, vous attendez longtemps avant de vous retrouver avec une casserole d'eau chaude, une casserole d'eau froide. Donc ça, c'est l'irréversibilité. D'accord ? Donc la chaleur va du chaud vers le froid, mais pas l'inverse. Donc c'est le processus physique qu'on cherche à comprendre. Alors, on va parler donc d'atomes, déjà, pour commencer. Alors, Boltzmann, ce n'est pas lui qui a inventé les atomes, hein, du loin. Hein, ça remonte au moins jusqu'à l'Antiquité grecque, des gens comme Démocrite, Épicure, Lucrèce. Mais il y avait un opposant de taille qui était Aristote. Alors, Démocrite. Vous voyez, c'est 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, donc ça, c'est quand même il y a longtemps. Alors, moi, je trouve que son raisonnement est absolument magnifique. Il dit, voilà, nos sens nous font percevoir la matière comme continue. D'accord ? Cette table-là, moi, quand je mets la main dessus, c'est continu. D'accord ? Même quand j'agite les mains dans l'air, d'accord, je sens l'air. Je ne sens pas les atomes qui viennent taper sur les mains, je sens l'air qui est continu. D'accord ? Donc la matière est perçue comme continue par nos sens, mais nos sens sont trompeurs. L'exemple qu'il prend, c'est que vous voyez une tour à distance, vous l'ayez carrée, et en fait elle est ronde ou l'inverse, je ne me rappelle plus. D'accord ? Et donc les sens nous trompent. Bien. Donc il faut se méfier un petit peu des perceptions. Mais on a une cervelle. Et la cervelle nous dit, bah oui, il y a du mouvement. D'accord ? Il y a des choses qui bougent. Moi je bouge, vous bougez, et puis si je regarde ce qui se passe dehors, ça bouge. Mais le mouvement exige de l'espace. Moi qui suis parisien, je sais que dans le métro, quand c'est plein, ben, je ne peux pas bouger. D'accord ? Ici, peut-être que le problème se pose moins, mais bon. D'accord ? Donc, le mouvement exige de l'espace. La matière n'est donc pas continue. Il y a du plein et du vide. D'accord ? Donc, le vide, ben, c'est du vide, et le plein, c'est des atomes. D'accord ? Les atomes sont très petits, invisibles, etc. Bon, et il dit, Démocrite, que les atomes s'agitent comme des grains de poussière dans un rayon de soleil. Alors ça, c'est magnifique, je trouve, comme image. Hein, on voit tout de suite de quoi il parle. Alors voilà Démocrite. Derrière lui arrive Épicure. Épicure est connu essentiellement, donc vous voyez, c'est 4e siècle, 3e siècle avant Jésus-Christ. Il est connu pour des théories hédonistes, c'est une éthique hédoniste, un peu un oxymore, mais enfin bon. Et il reprend pour l'essentiel l'atomisme de Démocrite. Il y a des différences, mais c'est pas marginal, mais enfin, il y a des différences. Voilà. Derrière encore, il y a Lucrèce. Alors lui, il n'était pas grec, mais romain, donc c'est 1er siècle avant Jésus-Christ. Il écrit donc un long poème épicurien où il défend les idées d'Épicure, de De Rerum Natura. D'accord ? Alors ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous voyez qu'il y a toute une tradition antique sur plusieurs siècles. D'accord ? Atomistique. D'accord ? Et que cette tradition atomistique est quand même liée à des philosophies plutôt matérialistes et hédonistes. D'accord ? C'est pas du discours religieux, par exemple. En revanche, Aristote, donc lui, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ, lui, il a des positions complètement différentes. Lui, il dit la matière est constituée de quatre éléments, donc la terre, l'air, l'eau, le feu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça ? Le feu, c'est de la matière. D'accord ? La chaleur, c'est de la matière. Bon. Deuxième point, le mouvement a besoin d'un moteur. Si je pousse un objet sur la table et que j'arrête de pousser, ça s'arrête. Okay ? Donc ça, c'est l'idée d'Aristote. D'accord ? Et si cet objet que je pousse était dans le vide, il n'y a rien qui s'opposerait à son mouvement, et donc la vitesse serait infinie, ce qui n'est pas possible. Vous voyez, donc là, on est dans une époque qui est très antérieure à Galilée, au principe d'inertie et tout ça. Donc, ce n'est pas idiot comme raisonnement. Hein. Ce n'est pas des imbéciles qui disent ça. Hein. D'accord ? Donc, voilà. Donc, lui, il avait une position complètement différente. Alors, pendant l'essentiel de l'Antiquité et du Moyen-Âge, c'est le point de vue d'Aristote qui gagne hein, assez largement. Une des raisons pour cela, c'est que l'atomisme, comme je viens de le dire, est associé à des pensées hédonistes, matérialistes, d'accord, non religieuses. Hein, Épicure disait « il ne faut pas craindre les dieux hein, » et réservé donc à des gens parfaitement immoraux, baffreurs et lubriques. Voilà. Là, il y a toute une propagande religieuse au cours du Moyen-Âge où ça cogne vraiment très fort. Averroès, donc, qui était un arabe espagnol, donc au XIIe siècle, à l'époque où l'Espagne était musulmane, a beaucoup travaillé sur Aristote et la compatibilité entre Aristote et le monothéisme. D'accord, en disant, et son point de vue, c'est que bon, il n'y a pas de problème. Les théories aristotéliciennes sont tout à fait compatibles avec la religion. Et les chrétiens, comme Thomas d'Aquin, ont repris ce genre de thématique après. Donc vous voyez qu'il y a tout un discours moral religieux qui intervient là-dedans, qui complique un petit peu le statut de l'atomisme. Au passage, donc, Épicure est en partie réhabilité par des gens comme Montaigne, Gassendi, lequel était religieux, hein, Gassendi. Voilà. Mais bon, pour l'essentiel, l'atomisme est un petit peu mis en dessous, quoi. Alors, on avait dit qu'on parlerait de la chaleur, donc pour essayer de se faire une idée de comment les gens envisageaient la chaleur, alors là, il s'agit du 16e, 17e siècle, donc c'est contemporain de Galilée, de Kepler, hein, de gens comme ça. Francis Bacon, donc, c'est un des tenants de l'empirisme anglo-saxon, les méthodes inductives, etc. Alors lui, en plus, il n'était pas scientifique, mais il était tout à fait au courant de ce que faisaient les gens à son époque. Il fait des allusions dans ses textes à Galilée en particulier. Il n'était pas idiot du tout non plus. Quand on parle de pensées qui nous sont un peu étrangères, on a un peu trop à prendre les gens pour des imbéciles. En fait, ce n'est pas des imbéciles du tout. Alors lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut bannir des théories qui ne se fondent sur rien ou sur des données insuffisantes. Hein, il faut des faits, facts, d'accord ? Et il faut se défaire de cette habitude funeste et invétérée à entretenir des abstractions. Bien. Alors, pour illustrer sa méthode inductive, il prend comme exemple la chaleur. Ce qui tombe bien, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, il dit, ben voilà, il faut commencer par faire la liste de toutes les instances dans lesquelles la chaleur joue un rôle. Alors, il en trouve 28 hein, de ces instances. D'accord ? Par exemple, les rayons de soleil, les flammes, les bains chauds, la fourrure, la laine, les animaux, pas les trop petits, mais bon, les excréments, etc. Donc là, il y en a 28, des trucs comme ça. Bien. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va faire la liste maintenant de toutes les instances dans lesquelles la chaleur ne joue pas de rôle. 32, il y en a. Alors, les rayons de lune, les étoiles, les comètes. Les rayons de soleil au sommet des hautes montagnes, ce qui est très intéressant parce que les rayons de soleil vont nous chauffer quand on est au sol ici, mais dans les montagnes, non. Bon. Étincelles, grottes, d'accord, etc. Je ne vous les donne pas toutes parce que... Bon. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va faire la liste des instances dans lesquelles la chaleur joue un rôle plus ou moins grand. Donc là, il y a 41 exemples. Je vous les donne une fois de plus, je ne pouvais pas toutes les donner. Alors, par exemple, les animaux acquièrent de la chaleur par l'exercice, le vin, l'amour, la fièvre, la douleur. La planète Jupiter produit plus de chaleur quand elle est dans la constellation du Cancer ou du Lion que dans le Capricorne ou les Poissons. C'est une donnée apparemment empirique. Bon. Le soleil chauffe plus quand il est au zénith ou proche d'étoiles, etc. Alors, on peut penser ce qu'on veut de l'empirisme un petit peu radical que défend Bacon, mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que son concept de chaleur est pour le moins fumeux. C'est le cas de le dire. D'accord ? Cette énumération va nous mélanger des tas de choses très diverses, sans ordre réel. D'accord ? En fait, il n'a pas de concept de chaleur, il ne sait pas ce que c'est. Il parle de chaleur, mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, ce qui est important pour le discours d'aujourd'hui, c'est que là, on est au XVIIe siècle et on ne sait pas ce que c'est que la chaleur. Joseph Black, alors lui, il met un petit peu d'ordre là-dedans, donc c'est XVIIIe siècle, donc on avance dans le temps. Et c'est lui qui comprend la différence entre température et qui est d'un degré de chaleur, d'accord, et quantité de chaleur. Vous voyez, c'est quand même relativement récent, ça ne nous renvoie pas à l'Antiquité, ça. On est au XVIIIe siècle. Donc il constate que pour qu'on se chauffe une grosse casserole, c'est plus compliqué que de chauffer une petite casserole à la même température, 100 degrés par exemple. Hein? Donc la température est la même, mais la quantité de chaleur que vous mettez dedans n'est pas la même. D'accord? Il observe aussi que, alors, il était écossais, donc il y avait des congères en hiver, et quand la température augmente, les congères ne disparaissent pas instantanément. Ce que ça veut dire, c'est que vos congères sont à 0 degré, d'accord? Vous avez apporté de la chaleur, ça fait fondre la glace. La température de la congère ne change pas, mais vous apportez quand même de la chaleur. Donc, c'est le concept de chaleur latente qui apparaît à ce moment-là. 18e siècle. Premier thermomètre, c'est pareil, c'est 18e siècle, Fahrenheit. Et puis, donc, le degré centigrade, c'est la Révolution française, typiquement, donc la fin du 18e siècle. Alors, il y a un personnage qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est Benjamin Thompson, qui était un Graf Rumford. Alors, c'est un Américain, mais au moment de la Révolution américaine, il a choisi le mauvais camp. Il s'est trouvé du côté des Britanniques, et donc, il est parti en Europe. Et donc, il a joué un rôle politique militaire en Bavière. Il a épousé la veuve de Lavoisier, lequel Lavoisier avait été guillotiné pendant la Révolution française. Ça a été assez désastreux. Alors, ce qui nous intéresse, nous, pour aujourd'hui, c'est... dans le cadre de ses activités militaires, il fabriquait des canons. Alors, pour faire un canon, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait un gros bloc de métal, un cylindre de métal, d'accord, et on perçait un trou dedans avec un forêt. D'accord. Et s'est aperçu que de percer un trou comme ça dans un métal, ça produisait beaucoup de chaleur, et en particulier, on pouvait même faire bouillir de l'eau avec ça. Première constatation. Deuxième constatation, il dit, puisque la chaleur, c'est un fluide, il doit y avoir une masse. Donc, un objet chaud doit peser plus lourd qu'un objet froid. Donc, il pèse les objets en augmentant la température. Évidemment, il s'aperçoit que ça ne change rien. D'accord ? Que donc la chaleur n'a pas de masse. Du moins, elle n'a pas de masse mesurable. Donc il dit, la chaleur a affaire avec le mouvement. Pourquoi ? Parce que quand je fore un trou, qu'est-ce que je fais ? J'ai le mouvement du foret qui vient apporter du mouvement. D'accord ? Et puis, il y a cette histoire de masse qui fait que c'est du mouvement. Mais mouvement de quoi ? On ne sait pas. Mouvement de comment ? On ne sait pas non plus. Vous voyez, là, il y a un pas qui est franchi par Rumford. Alors, le temps passe, donc on arrive à Carnot. Alors, je dis toujours, je fais de la provocation pour les physiciens qui sont dans la salle. Il y a deux bouquins qu'un physicien doit avoir lus dans sa vie. Le premier, c'est Le messager céleste de Galilée, qui est un bouquin magnifique. Et le deuxième, c'est celui-là, La réflexion sur la puissance motrice du feu. Alors, c'est un bouquin qui est absolument limpide, qui est magnifique. Alors, à l'époque de Carnot, on fabriquait des machines à vapeur, Watt, c'était un peu avant, et ces machines servaient à pomper de l'eau dans les mines, à faire tourner des usines, etc., etc. Et puis les gens disaient, la machine que j'ai fabriquée, elle est mieux que la machine d'un tel, parce que je consomme moins de charbon pour produire plus de travail. Alors Carnot, il ne prend pas du tout le problème comme ça, lui, il prend de façon générale. D'accord. Est-ce qu'avec une quantité de chaleur donnée, ou une quantité de charbon donnée, je peux produire une quantité infinie de travail, ou est-ce qu'il y a une limite, et quelle est cette limite ? Bon. Donc, il prend le problème de façon très générale, ce qui est tout à fait son originalité. Alors, il fait une analogie avec un fluide, d'accord ? Pourquoi ? Parce que le calorique pour lui, donc la chaleur, c'est un fluide qui coule. D'accord ? Alors, il va prendre une analogie hydraulique. Vous voyez, ici, j'ai de l'eau qui arrive, qui coule, et qui s'écoule ici. Entre-temps, elle va entraîner cette machine, cette roue à aube, par exemple, d'accord ? Et produire du travail, de la puissance motrice. D'accord ? Donc, c'est la chute d'eau qui va produire du travail. Il dit, avec la chaleur, c'est pareil, si j'arrive là. J'ai une source chaude qui est à haute température, comme l'eau ici qui est en hauteur. Le calorique tombe, d'accord ? Chute du calorique, ça sort par une source froide, et entre les deux, il y a un moteur qui produit de la puissance motrice. Okay. Donc, analogie. Donc, il faut une source chaude et une source froide. Si on n'a que la source chaude, ça ne marche pas. Hein. Deuxième constatation, c'est que si vous regardez ici, j'ai de l'eau qui coule, mais qui ne produit pas de puissance motrice. Même chose ici. D'accord ? Donc, dans une installation hydraulique de cette sorte, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais éviter justement ces chutes d'eau qui ne servent à rien. Même chose ici. Je vais essayer d'éviter les chutes de caloriques qui ne servent à rien, qui ne produisent pas de travail. Mais la chute de calorique, c'est quoi ? C'est quand vous mettez en contact deux objets à température différente, comme mes casseroles de tout à l'heure. D'accord ? Donc, quand il se fait ça, il dit, je vais éliminer tout ce qui est irréversible. C'est ça l'idée importante. D'accord ? Vous voyez qu'à partir d'une analogie très simple, il arrive à des choses très importantes. Donc, première conclusion, c'est la chute de calories qui produit du travail. Deuxième conclusion, on doit éviter les chutes de calories qui ne produisent rien. D'accord ? Donc, les transferts de chaleur entre des objets à température différente. Ça, c'est un concept extrêmement important. D'accord ? Alors ensuite, il définit son cycle avec les adiabatiques, les isothermes, etc., etc. Ça devient un peu technique, mais l'idée fondamentale qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Donc, le cycle de Carnot est réversible, ce qui a une conséquence très importante, c'est que, vous voyez, si je fabrique une machine de Carnot qui est ici, d'accord ? Mais comme c'est réversible, je peux la faire marcher à l'envers. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais apporter de la puissance motrice. Là, la source froide, je vais prendre de la chaleur à la source froide, pomper cette chaleur, d'accord ? Et l'envoyer dans la source chaude en consommant du travail. C'est ce que fait le frigo de service chez vous. Hein ? Bien. Imaginons que je fabrique maintenant une machine qui est plus efficace que celle de Carnot. Là, voilà. Elle est beaucoup plus moderne que l'autre. Hein. Et donc, elle prend de la chaleur de la source chaude, elle l'envoie dans la source froide, elle produit de la puissance motrice, mais comme elle est plus efficace que la machine de Carnot, elle va produire plus de puissance motrice que n'en consomme la machine de Carnot. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'ai de la puissance motrice en excès, d'accord ? Et donc, j'ai fabriqué du mouvement perpétuel. Et Carnot dit, c'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'une machine réversible qui obéit au cycle de Carnot, d'accord, est la machine la plus efficace possible. D'accord. Alors, ce qui est important, vous voyez, donc ça, c'est des concepts qui sont fondamentaux, que tous les étudiants, doivent comprendre, parce que c'est fondamental, d'accord. Ce qui est important chez Carnot, qu'il faut garder en tête, c'est que pour lui, le calorique se conserve, c'est un fluide qui coule. D'accord ? Et ça, c'est un peu un problème. La chaleur est conservée. Alors, le problème, c'est que juste après ça, il y a Joule, donc pareil, début, dans sa première moitié du 19e siècle. Alors, il fait plein d'expériences, je ne vais pas vous les décrire toutes. Il y en a toute une série. C'est extraordinaire. Hein. Le boulot de Joule, c'est remarquable. Toutes ces expériences sont extrêmement difficiles à faire. Hein. C'est d'une précision extraordinaire. En fin de course, il arrive à dire, ben voilà, si je fais descendre une masse, donc je peux calculer le travail fourni, d'accord, avec des poulies, des renvois, etc. Je fais tourner une hélice dans un réservoir avec de l'eau, d'accord, et la température va augmenter. D'accord. Et il calcule le coefficient, le rapport. D'accord ? Et il en déduit l'équivalence chaleur-travail. D'accord ? C'est l'énergie totale qui se conserve, d'accord ? Mais ce n'est ni la chaleur ni le travail. D'accord ? C'est donc le premier principe de la thermodynamique. Évidemment, ça pose problème parce que c'est contradictoire avec ce que disait Carnot. Entre-temps, il y a Thomson qui connaissait tout ça, qui définit, lui, alors comme le temps passe, je ne vais pas entrer dans le détail de ces considérations, lui prend la température absolue comme le rapport de la chaleur fournie au travail obtenu. D'accord, parce qu'en fait, il y avait des travaux de Clapeyron sur les gaz parfaits qui montraient qu'il y a une température qui... Alors, pour Clapeyron, c'était moins 267, pour nous, c'est moins 273, mais c'est pareil, qui dit bah, c'est une température absolue. Et donc... Thomson donne une justification, disons, théorique à cela. Mais ce qui va nous intéresser pour nous aujourd'hui le plus, c'est Clausius. Clausius, vous voyez, c'est milieu du 19e siècle. Alors, lui, il réfléchit à cette contradiction entre ce que dit Carnot et ce que dit Joule. D'accord ? Carnot qui dit, ben là, le calorique se conserve. Joule dit, ben non, il y a équivalence entre chaleur et travail. Alors, ce que dit, les articles de Clausius sont assez difficiles à lire, Mais en fin de course, il arrive à la conclusion que tout est à garder chez Carnot, sauf la conservation de la chaleur. Alors, on doit remplacer donc conservation de la chaleur par conservation de l'énergie. Pendant le cycle, en particulier le cycle de Carnot, la chaleur est détruite, donc il y a du travail produit. Bon. Le travail produit est la différence entre la chaleur qu'on fournit à la source chaude et celle qui est reçue par la source froide. D'accord ? Et la chaleur est donc transformée en partie en travail. Alors ensuite, il fait un certain nombre de calculs et il arrive ici à cette relation en bas, là. Ici. Il part, vous voyez, de la définition de Kelvin de la température, sur laquelle je suis passé un peu vite, et il arrive ici. Il dit, ben voilà, cette quantité Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale 0. D'accord. Il dit, ben, c'est cette quantité, vous voyez, le Q1 sur T1, c'est la chaleur fournie aux sources chaudes divisée par la température de la source chaude plus la chaleur reçue par la source froide divisée par la température de la source froide. Cette quantité-là est nulle, pas dans n'importe quel cas, dans le cas d'un cycle réversible. Et il dit, ben là, le transfert de chaleur divisé par la température, ben, il appelle ça entropie. Voilà. La somme des variations de l'entropie dans une transformation réversible, on l'a vu, est égale à zéro. Donc l'entropie se conserve. D'accord ? Parce que les transferts de chaleur se font entre corps à même température. Il n'y a pas de transfert de chaleur à température différente. Donc c'est comme pour Carnot. Alors, pour une transformation qui n'est pas réversible, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il trouve que, forcément, la variation d'entropie est positive. D'accord? Bon, il suffit de faire la somme des dq sur t, hein, et on s'aperçoit que c'est toujours positif. Bien. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. Donc, voilà où on en est à la... vers le milieu du 19e siècle. On a les deux principes de la thermodynamique, d'accord ? Vous combinez l'énergie, l'entropie, etc., vous pouvez fabriquer des fonctions thermodynamiques, faire des tas de calculs, les faire calculer des dérivés par rapport à des variations de ci, de ça, d'accord ? Donc tout l'appareil, et, bon, Gibbs par exemple, après, alors, aux États-Unis, a beaucoup travaillé là-dessus, et d'autres, en France, Duhem, ont travaillé sur ce genre de choses. À partir de ces fonctions qui sont là, on peut faire, il y a toute une science qui a atteint un certain degré de maturité, je dirais, à partir de ces deux principes. Bien. Première loi, donc, l'énergie de l'univers est constante, c'est la conclusion de Clausius. Seconde loi, l'entropie de l'univers tend vers un maximum, et avec ça, donc, on peut travailler. Bien. Alors, Clausius défend aussi un point de vue atomistique. Et il est très prudent, Clausius. Il dit, d'une part, bon, il y a le premier et deuxième principe de la thermodynamique, très bien, mais là, je ne vais pas parler d'atomes. Si vous regardez, il y a 9 articles là-dessus, qui s'étalent sur une dizaine d'années. D'accord ? Il n'y a pas le mot atome. D'accord ? Par ailleurs, il va s'intéresser à des problèmes où il y a des atomes. Par exemple, si on fait un petit calcul, on s'aperçoit qu'à température ambiante, la vitesse des atomes devrait être très élevée, sous environ de 500 mètres par seconde, c'est 1800 km/h. Donc c'est supérieur à la vitesse du son en particulier. D'accord ? Donc, par exemple, si vous prenez deux récipients avec deux gaz différents, vous les mettez en contact, quasiment instantanément, le mélange devrait se faire. Alors, il dit non. C'est plus compliqué que ça. Il y a des chocs. Et il dit, voilà, la particule noire, là, ici, va se balader en ligne droite entre deux chocs, mais entre deux chocs, au niveau des chocs, elle va être déviée. Et donc, il va y avoir un libre cas parcours, une distance qu'on peut calculer, d'accord, entre deux chocs. Donc, il estime le libre parcours moyen, d'accord, et il s'aperçoit que c'est tout petit, hein, pour un gaz à pression et température ambiante. Et il dit, bah, le mouvement d'une particule donnée, ça ne va pas être une ligne droite comme ça. Ça va être tous ces petits zigzags dans tous les sens, d'accord. Et donc, on va avoir un mouvement diffusif qui va expliquer pourquoi c'est si lent, ça prend si longtemps de mélanger le gaz. D'accord. On s'aperçoit aussi à l'époque qu'un gaz sous pression devient moins compressible. Alors, l'idée, c'est très simple, c'est que les atomes qui constituent ce gaz occupent un certain volume, d'accord. Et quand ils s'approchent les uns des autres, tout va bien. Et puis, il y a un moment où ils commencent à se rentrer dedans, et là, il faut appuyer beaucoup plus fort. Ça permet à Arno Schmidt, qui était un collègue de Boltzmann à Vienne, de calculer, en gros, d'estimer la dimension des atomes, d'accord. Et il obtient ce qu'on appelle en Allemagne le nombre de Loschmidt, qui est en fait le nombre d'Avogadro. D'accord, en Allemagne, on ne parle pas du nombre d'Avogadro, on parle du nombre de Loschmidt, mais c'est à peu près la même chose. Maxwell. Alors, Maxwell, il est connu pour ses équations de l'électromagnétisme, mais c'est aussi travaillé sur les problèmes de atomistique. D'accord. Donc ça, c'est, vous voyez, ça commence à être, ça avance un peu dans le temps, fin du 19e siècle. Alors, là où Clausius avait calculé une vitesse moyenne des atomes, lui, il calcule toute la distribution, il trouve une distribution gaussienne, bon, qu'on appelle la distribution de Maxwell. Bien. J'avance un peu. Donc, à cette fin du 19e siècle, il y a deux mondes. Il y a le monde de la thermodynamique classique, d'accord, qui est basé sur les concepts d'énergie et d'entropie, donc les deux principes de Clausius. D'accord. C'est une science qui est mûre, qui permet de faire des tas de calculs, qui permet de faire des tas de choses. D'accord. On combine des trucs, on calcule des énergies libres, des enthalpies, enfin tout le bazar. D'accord. On calcule les variations de l'énergie en fonction de ci et de ça. D'accord. On peut généraliser à d'autres variables que simplement la pression de la température. On peut introduire le champ magnétique, etc. etc. Bon. Bien. Donc ça, c'est gros pavé. Et puis, il y a le monde atomique, où on balbutie un peu, on calcule des libres parcours, on calcule des vitesses, des distributions, des trucs comme ça, mais on ne sait pas trop comment faire une synthèse de tout ce bazar. Arrive Boltzmann. Alors Boltzmann, il commence par dire, ben voilà, je vais me passer dans l'espace des vitesses, vous voyez, et donc je vais considérer le nombre d'atomes ayant une vitesse comprise entre V, c'est à trois dimensions, V, X, V, X, Y, Z, et V plus DV. Donc je prends un petit volume dans l'espace des vitesses, ça c'est V, X, V, Y, V, Z, d'accord, et j'écris que le nombre de particules qui ont justement cette vitesse, d'accord, c'est une distribution de vitesse F fois le volume qui est là. D'accord. Donc ça, c'est des maths. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il montre que cette fonction f qui est ici, qui est en fait la distribution des vitesses, si vous voulez, d'accord, s'il prend f fois le logarithme de f qu'il intègre sur toutes les vitesses et qu'on somme sur tous les atomes, d'accord, c'est une fonction qu'il appelle h, et que cette fonction h, en moyenne, diminue au cours du temps. Pour faire ce calcul, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en compte toutes les collisions entre atomes, et donc il prend l'équation de Boltzmann, d'accord, qu'il avait écrite avant. Donc il fait un bilan de toutes les collisions. Alors ça prend pas mal de pages de calcul, hein, c'est un peu long. Donc c'est ce qu'on appelle le théorème H, donc qui est une conséquence de l'équation de Boltzmann. Bien, alors là on se dit, tiens, bon, ça va dans le mauvais sens, mais enfin, ça ressemble un peu à un deuxième principe. D'accord. Alors, après, ensuite, il y a encore un bon paquet de pages de calcul, et il écrit que s'aperçoit que H, sa fonction H, celle qui décroît au cours du temps, c'est le logarithme, moins le logarithme de ce W, qui est la probabilité de la disposition des molécules. Alors, ça, c'est pas très clair. De nos jours, on dirait plutôt que c'est le nombre d'états microscopiques compatibles avec un état macroscopique. L'état macroscopique étant pression, température, etc., ce qu'on peut mesurer. Et les états microscopiques, c'est toutes les configurations atomiques qu'on peut imaginer. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il dit après, dans la nature, existe toujours la tendance à passer de l'état le moins vraisemblable à celui qui l'est plus. Donc, c'est une loi probabiliste. D'accord. Si donc W est plus petit pour un état que pour un second, il y aura besoin pour déterminer le passage du premier au second de l'action d'un corps étranger. Autrement dit, il dit un système thermodynamique laissé isolé, donc sur lequel on n'agit pas particulièrement, va tendre vers l'état le plus probable. Et donc le H va diminuer. Donc évidemment, ce qu'on dit, c'est qu'après, il refait encore des calculs, il montre que son H, c'est moins l'entropie à une constante près. Donc il écrit l'entropie égale K constante, qu'on appelle maintenant la constante de Boltzmann, logarithme de W, qui est la grande formule de Boltzmann. Donc si, évidemment, si H diminue, l'entropie augmente, et donc on retrouve le deuxième principe de la thermodynamique de Clausius. Évidemment, après, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il montre que pour S maximum dans un gaz, il va retrouver la distribution de Maxwell des vitesses, ce qui est pas mal. D'accord ? Là où la démonstration de Maxwell était un petit peu intuitive, là, c'est vraiment bien démontré. Alors, le problème, c'est que le théorème H, c'est un théorème statistique. On va parler de probabilité, de choses comme ça. H diminue en moyenne, mais il peut augmenter aussi. D'accord ? Il n'y a pas de principe qui va empêcher le H d'augmenter. D'accord ? Bon, le problème, c'est que pour les tenants de la thermo classique avec l'entropie qui augmente, l'entropie augmente, elle ne diminue jamais. Il n'y a pas de... D'accord ? Pour Boltzmann, bah, si, l'entropie peut augmenter, mais c'est tellement improbable que ça n'arrivera jamais. Vous pouvez prendre vos deux casseroles d'eau tiède, d'accord ? Si vous attendez suffisamment longtemps, mais il faut vivre vieux hein, pour ça, d'accord ? Vous pouvez risquer d'avoir deux casseroles à des températures différentes. D'accord ? Donc il faut attendre plusieurs millions de fois l'âge de l'univers pour que ça puisse arriver. Hein. C'est extraordinairement... Alors, aussi, ce qu'il dit, c'est que... donc Loschmidt, attention, toujours le même, qui était un de ses collègues, disait, mais le problème, c'est que si vous faites une mécanique comme ça, avec des atomes qui rentrent en collision, les équations du mouvement sont réversibles. Vous prenez deux atomes, poum, vous renversez les vitesses, ça repart dans l'autre sens. Okay ? Donc, vous prenez un système thermodynamique qui a évolué dans un sens, vous renversez toutes les vitesses de tous les atomes, et puis pouf, il va repartir dans l'autre sens. Donc, c'est réversible. Boltzmann ne conteste pas du tout cet argument-là. C'est réversible, mais c'est tellement improbable qu'on ne le verra jamais. Alors, Boltzmann, donc voilà, j'arrive au bout. Boltzmann n'a pas découvert l'atomisme, ça remonte à Démocrite, bien avant. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la jonction, vous voyez, entre deux mondes. Il y avait le monde de la thermoclassique, dont je vous ai parlé assez longuement au début, et puis cette thermostatistique qu'il est en train de mettre en place. Alors, donc cette expression de l'entropie, le SK log d'oméga, ou de W, fait un lien donc entre ce monde microscopique des atomes, des molécules, etc., et des grandeurs macroscopiques, que sont l'énergie, le travail, la chaleur, la pression, la température, etc. Elle donne un fondement théorique au-delà d'une simple phénoménologie, d'accord, à la thermodynamique. Maintenant, on commence à pouvoir dire ce que c'est que la chaleur. La chaleur, c'était... On ne savait pas ce que c'était. On parlait de chaleur, mais... dans Clausius, la chaleur, c'est Q. Voilà. D'accord ? Maintenant, on sait que c'est les mouvements des atomes. D'accord ? Et donc, évidemment, ça donne une conception nouvelle, tout à fait productive, aux questions d'irréversibilité. Parce que si je mélange, par exemple, deux gaz qui sont à température différente, les collisions entre atomes vont permettre, d'accord, l'homogénéisation du système. Et donc, l'irréversibilité est facile à comprendre. Alors, c'est donc façon d'aborder le monde. Donc, irrigue évidemment la physique. Hein. Moi, je suis physicien de la matière condensée, donc avec un grand nombre de particules. On est dans les atomes, hein, avec des problèmes d'irréversibilité, etc. Donc, on fait au labo où je travaille, on fait des simulations numériques. On va dire, voilà, j'imagine une collection d'atomes, de, je sais pas quoi, du sodium, de l'oxygène, de l'hydrogène, etc. On mélange tout ça et on va calculer les interactions atome-atome, intégrer les équations du mouvement. Donc on va faire de la mécanique, d'accord, exactement comme Boltzmann. D'accord. Puis ensuite, on va faire de la statistique là-dessus pour calculer des grandeurs macroscopiques. On fait du Boltzmann. D'accord. On consomme un certain nombre de millions d'heures de calcul par an à faire ça, mais bon. D'accord. Nous, on est vraiment là-dedans. Ces conceptions, évidemment, vont féconder d'autres domaines qui n'ont pas grand-chose à voir avec la physique. La théorie de l'information de Shannon introduit un concept d'entropie qui est assez similaire à celui de Boltzmann. Alors, lui, son problème est un peu différent. La question qui se pose, c'est: je veux émettre un signal d'un point A et reçu en un point B. Entre les deux, il y a des perturbations. De combien mon signal doit-il être redondant pour que je récupère toute l'information que je transmets? D'accord. Et il introduit donc l'entropie de son information, d'accord, qui est en fait le désordre dans l'information que l'on ne contrôle pas. Les réseaux de neurones aussi, bon, les réseaux de neurones, vous savez tous probablement que c'est à la base de l'intelligence artificielle qui est très à la mode à l'heure actuelle. Moi, j'ai souvenir de séminaires au début des années 80, où on parlait de réseaux de neurones avec des raisonnements qui étaient basés sur la thermostat. D'accord, c'était des physiciens de la thermostatistique qui nous parlaient de réseaux de neurones à l'époque. D'accord. Et donc, vous voyez, c'était un moyen de réfléchir sur ces choses-là. Voilà. Donc là, j'ai parlé, je pense, assez longtemps. Donc, je vous remercie pour votre attention. D'accord. Je pense que j'ai abordé un certain nombre de questions. Je ne pense pas avoir répondu à toutes, mais j'espère avoir aiguisé un peu votre curiosité. Donc, il y a des choses qu'on peut lire. Pour voir un peu la personnalité de Boltzmann, Le voyage d'un professeur allemand en Eldorado, c'est un bouquin qui est très marrant. Il raconte son voyage en Californie et il a beaucoup d'esprit. Bon, la déduction sur la théorie des gaz, bon, c'est en gros les équations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis après, il y a d'autres bouquins qui sont utiles. Le bouquin, la biographie donc, de Boltzmann par Broda, qui est pas mal. Et puis, donc, le bouquin de Lochner, bon, qui résume en gros toute l'histoire de la thermoclassique, hein, qui est un bouquin assez clair, assez intéressant de ce point de vue-là. Et puis, évidemment, l'image, bon, c'est effectivement ce que nous, physiciens, théoriciens, numériciens, faisons tous les jours. Voilà. Et si vous avez des commentaires... Je suis prêt à y répondre.
Merci beaucoup pour votre intervention et ce séminaire très intéressant. Donc, est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions dans la salle.
On trouve encore les références que vous citez là.
Est-ce qu'on les trouve? Gabay, oui. Je pense qu'Actes Sud, dans une bonne bibliothèque, vous devriez trouver ça. Voilà. Oui, il est dispo. D'accord. Le bouquin de Broda, c'est un bouquin que j'ai récupéré aux États-Unis il y a bien longtemps. Je ne suis pas sûr que ce soit très... Mais il doit y avoir d'autres bios de Boltzmann. Hein. Oui.
C'est une question très naïve, je ne suis pas physicien, mais vous avez dit qu'il faut attendre très longtemps à partir de deux casseroles d'eau tiède pour obtenir une eau chaude et une eau froide. Est-ce qu'il y a des situations physiques où on sait mesurer des choses suffisamment précisément pour voir un phénomène comme ça?
Ah ben, il y a toutes les histoires de flux. Donc, si vous prenez... Oui, alors la question c'est: est-ce qu'on peut mesurer des phénomènes d'entropie qui diminuent? Si vous avez un nombre de particules relativement faible, les fluctuations, parce que c'est tout statistique ça, les fluctuations peuvent vous permettre d'avoir des phénomènes qui marchent à l'envers. Alors si vous avez un grand nombre de particules, c'est très difficile. Alors Boltzmann, lui, il va beaucoup plus loin. Lui, il dit, L'autre univers tel que nous le connaissons, c'est peut-être tout simplement une fluctuation d'un ensemble beaucoup plus grand. Vous voyez ? Bon, alors ça, c'est invérifiable. Hein, comme, à l'heure actuelle, c'est invérifiable, mais c'est une idée qui est assez séduisante, quoi, qui répond un peu à votre question, je pense. Oui ?
Moi, c'est plus une remarque d'historien.
Oui.
J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire. Donc, vous êtes passé un peu vite sur Maxwell.
Oui.
Maxwell a un rôle fondamental dans l'évolution des idées de Boltzmann. Parce que si on regarde le jeune Boltzmann, donc en 1866, son premier, c'est son deuxième article, qui porte sur le sujet, ce qu'il recherche, c'est de montrer que le second principe est équivalent au principe de moindre action en mécanique. C'est-à-dire le rapport entre deux choses qui n'ont rien de statistique. C'est Maxwell, excusez-moi, juste deux petits points, c'est Maxwell en 1859 et 1866 qui fait la rupture épistémologique qui consiste à introduire la notion de distribution statistique en physique. C'est pas Boltzmann qui l'introduit et qui fait une rupture avec Clausius, comme vous l'avez dit, le livre Parcours moyen, où on suit mécaniquement une particule dans un ensemble. Et donc, je pense que Maxwell a joué un rôle très important dans l'évolution des idées de Boltzmann, qui l'ont conduit justement à l'équation de Boltzmann en 1872, et qui est vraiment le centre de la pensée de Boltzmann. Hein. C'est log de rho, ça c'est pas S égale la K log de W, comme c'est écrit sur sa tombe, qui est le centre de la pensée de Boltzmann. Hein, je pense que vous êtes d'accord avec ça. L'article de 77 où il introduit la proportionnalité entre l'entropie et le logarithme des distributions, hein, c'est quelque chose qui, d'ailleurs dans le titre, apparaît comme illustration de l'équation de Boltzmann. La pensée de Boltzmann, c'est vraiment une équation d'évolution, et c'est très intéressant de voir qu'il part d'une équation purement formelle à une équation d'évolution d'une distribution statistique qui fait, vous l'avez bien dit, toute la richesse de l'équation de Boltzmann après. Et donc il ne va pas rencontrer Maxwell, ça c'est dommage, et Maxwell meurt jeune, hein, 48 ans, et le dernier article de Maxwell, c'est un peu triste, c'est sur l'équation de Boltzmann.
Bien sûr.
Voilà, c'était juste quelques petites précisions historiques, vous n'avez pas eu le temps de présenter, évidemment. Je pense que vous connaissez, mais comme le rôle de Loschmidt, Loschmidt, c'est un tout petit bout hein, sur la réversibilité chez Loschmidt. Ce que veut faire Loschmidt, c'est introduire des forces extérieures, donc la gravitation, dans les quatre articles de Loschmidt. Et c'est Boltzmann qui comprend l'importance de Loschmidt. C'est-à-dire la réversibilité, c'est vraiment Boltzmann qui la comprend. Voilà, c'est tout juste.
Non, ben, je suis évidemment, bien sûr, d'accord, évidemment. Mais simplement, bon, là, j'ai parlé pas mal de temps. Ce que je voulais, c'était essentiellement montrer le passage de cette thermoclassique qui était constituée, d'accord, avec ce concept de chaleur qu'on ne comprenait pas bien, à cette mécanique de Boltzmann. Et Boltzmann insiste beaucoup. Évidemment, Boltzmann était tout à fait au courant de ce qui se passait ailleurs. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Il est allé en Angleterre, il est allé aux États-Unis, il a circulé un peu partout. D'accord, il était tout à fait au courant de Maxwell, évidemment, il le cite à plusieurs moments dans la théorie des gaz. Bien sûr.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que Maxwell a un rôle important
oui.
dans la notion statistique, pas de la chaleur, mais de l'introduction statistique.
Bien sûr.
C'était tout le commentaire, excusez-moi.
Voilà.
Passé vite sur Maxwell.
oui, bah, c'est un personnage important, Maxwell. Bien.
Oui. J'avais une question sur Rumford, qui a pesé la chaleur. Et il me semble que Lavoisier avait déjà montré qu'il n'y avait pas de phlogistique et que c'était encore débattu, parce que il me semble que Lavoisier avait déjà montré que la chaleur.
Alors Rumford, c'est avant. C'est un petit peu avant.
C'est avant Lavoisier.
Ouais.
Parce que après, il a épousé Madame Lavoisier.
Oui, bah, elle a vécu un peu plus longtemps. Lavoisier, malheureusement, il a eu des ennuis.
En plus, elle a participé aux travaux de Lavoisier. Elle faisait les dessins, elle se représentait elle-même.
Oui. Oh, ben, c'était un personnage, visiblement, Madame Lavoisier, mais apparemment, elle n'était pas commode. Lui non plus. Rumford, il était assez arrogant, je crois. Et une des raisons pour lesquelles Rumford est moins connu que d'autres, c'est qu'il était imbuvable.
D'accord, ça date d'avant les travaux de...
Je pense, oui, oui, oui. De toute façon, les communications à l'époque n'étaient pas... Bon, il y avait des communications, hein, mais c'était peut-être un peu moins rapide qu'Internet aujourd'hui. Alors, il faut relativiser quand même, parce que là, c'est un exemple qui est très important, c'est quand Galilée, donc en 1610, a découvert les mouvements de Jupiter, etc., les satellites de Jupiter, etc., quelques mois après, Kepler était au courant. Quelques semaines après, Kepler était au courant. Donc, même au XVIIe siècle, et après... les communications existaient, mais c'est quand même un peu moins rapide qu'à l'heure actuelle. Encore ?
De la mécanique qui sont réversibles.
L'eau-Schmitt.
L'eau-Schmitt et puis le passage au macroscopique irréversible.
Mmh.
Donc c'est une question qui est encore ouverte.
Bien sûr. Bien sûr.
Il y a le lien avec le chaos. Et...
Alors, ça, j'en ai pas parlé, mais effectivement, à partir de Poincaré, il y a la sensibilité aux conditions initiales, d'accord, qui apparaît. Alors, bon, ça, c'est encore une autre histoire. Newton résout les équations du mouvement d'une planète et son satellite. Donc la Terre autour du Soleil. Donc deux corps. Alors après, il y a eu plein de découvertes en mécanique, d'accord, mais toujours deux corps. Hein, sauf pour les systèmes vraiment harmoniques. Et les physiciens disaient aux mathématiciens, mais vous nous cassez les pieds. Nous, on sait résoudre les équations à deux corps, mais et vous, qu'est-ce que vous foutez ? On veut pouvoir résoudre des équations à trois corps, voire à n corps. Les mathématiciens. Et c'est Poincaré, donc au tout début du XXe siècle, les premières années, je ne me rappelle plus la date exacte, qui dit, bah, si vous prenez un système non linéaire avec plusieurs particules dedans, et vous regardez, vous partez d'une condition initiale donnée, vous pouvez calculer comment ça va évoluer. Vous prenez les mêmes conditions initiales, mais très légèrement écartées. Pendant un certain temps, ça va faire pareil, et puis ça va diverger. D'accord ? Alors, l'exemple typique de ça, c'est la météo. Prenez la météo. Aujourd'hui, on est capable de mesurer la température à plein d'endroits du globe terrestre. Il pleut, il ne pleut pas, le taux d'humidité, enfin, tous les paramètres pertinents. Et on peut calculer comment ça va évoluer. Il y a des équations pour faire ça. D'accord ? Sauf qu'il y a une espèce d'horizon de prédictibilité. On sait que c'est l'exposant de Lyapunov, enfin, peu importe, qui dit, voilà, on est capable de prédire le temps qu'il va faire demain, après-demain, dans une semaine. Mais plus on veut loin, plus les efforts de calcul et de choses comme ça, des moyens dont on a besoin, vont exploser. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la sensibilité aux conditions initiales et tous les problèmes de chaos déterministe qui sont derrière. Et là, il y a un monde, c'est un domaine à plein titre de la physique, tous ces problèmes de chaos. Et jusque, bon, il y a l'histoire de fractales de Mandelbrot, etc., etc., qui joue un rôle important. Et on peut, d'une certaine façon, faire le lien entre ça et effectivement Boltzmann, puisque les équations d'interaction entre les atomes, c'est non linéaire, et puis il y a beaucoup de particules, et donc c'est strictement irréversible et imprévisible, d'une certaine façon.
Voilà. Il me semble que Boltzmann, il y a le Strauss-Spinoza, l'hypothèse qui est du chaos au départ.
Oui, alors lui...
Il l'a introduit à la main.
Oui, oui. Oui, oui, bah, il dit bah, la chaleur, c'est le mouvement des ordonnées. Hein, des...
Il y a
oui.
Pas de mémoire, c'est passé avant.
Voilà. Voilà. Alors, c'est plus pour des raisons mathématiques, parce que, bon, pour intégrer des équations stochastiques, alors ça, c'est les financiers qui savent ça très bien. Si vous voulez intégrer une équation stochastique, il y a un lemme qui vous permet de dire que vous allez obtenir des distributions gaussiennes, etc., c'est à condition qu'il n'y ait pas de mémoire. Alors, je ne pense pas que Boltzmann était tellement au courant de ce genre de truc, parce que Ito, c'est 20e siècle, hein, c'est pas... Et, mais bon, il avait cette intuition qu'il fallait effectivement qu'il n'y ait pas trop d'interaction. Il y a le théorème de la limite centrale qu'on connaît tous, enfin que les physiciens connaissent bien, c'est-à-dire que si vous avez un processus aléatoire sans mémoire, sans corrélation, vous allez obtenir des distributions type Maxwell. Donc je pense que Boltzmann était plus ou moins conscient de ça, je ne sais pas s'il le formule, ben, on a un spécialiste qui doit savoir ça mieux que moi.
Ouais. C'est quelque chose qu'il va introduire plus tard.
C'est ça, oui.
Dans les discussions, en particulier bon, sur Poincaré, hein, quand Zermelot, en 1896, va reprendre le théorème de Poincaré sur les trois corps, pour s'opposer à Boltzmann. Mmh. Et là, il va admettre l'indépendance des différentes particules, sinon, on ne peut pas calculer. Hein. S'il y a un coefficient de corrélation entre les particules, on ne peut pas calculer. Et il va reconnaître que la fonction qu'on appelle collision aujourd'hui est une fonction aussi probabiliste, alors que dans les premiers calculs, c'était plutôt formel. C'est-à-dire qu'il va aller de plus en plus vers les probabilités. C'est-à-dire qu'il fait un calcul d'évolution d'une distribution à la Maxwell, et après, il va se rendre compte que l'équation d'évolution elle-même est probabiliste. C'est-à-dire qu'il y a un approfondissement.
Dans le terme de collision, le truc entre parenthèses.
Le Saint-Lanzac, il l'a traduit peut-être dès 1890, mais surtout après les discussions sur ces travaux que vont faire les Anglais en 1895. Mmh. Justement, Maxwell est mort depuis longtemps, mais c'est un moment riche de Boltzmann.
Bien sûr, oui.
Parce que sinon, on ne s'intéressait pas à ces travaux, comme vous l'avez dit. Mmh. Personne ne lisait Boltzmann.
Bah, surtout les Allemands.
Oui. Mais même en France, Poincaré, quand on regarde la thermodynamique de Poincaré, Boltzmann, il intervient dans la dernière demi-page pour dire que ce n'est pas intéressant.
Ah oui, ça je n'avais pas lu. Alors,
même en France.
Pardon. Oui. Bah, ceci dit, Boltzmann, il a été traduit en français assez vite. Oui. C'est un Brouin, mais ce n'est pas le Léon Brouin.
En français, ça a été traduit en 1902. Voilà. Ça a été traduit même de son vivant.
Hein, voilà.
Parce qu'il est mort en 1906. 1902-1905. Ce que vous avez mentionné de Gabé, c'est une réédition.
Voilà.
Des traductions. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'il n'y a pas de modernisme dans la traduction.
Oui, bien sûr.
Parce que quand on traduit 100 ans après, on introduit des choses qui n'existent pas dans le texte original.
Ah, les d'époque, oui, ça c'est sûr.
Voilà, donc, Gabé, c'est une réédition
de l'époque.
Le sens sur la théorie du théâtre. Ça me ramène 40 ans en arrière.
Très bien. Donc voilà.
Et il s'est suicidé, c'est ça ?
Oui, il s'est suicidé, oui. Oui. Alors, je ne sais pas, vous savez, c'est peut-être plus ça que moi, mais visiblement, il était assez fragile psychologiquement. Il avait des problèmes de santé. Bon, en plus, il avait quand même des difficultés avec ses collègues à Vienne et en Allemagne. Bon, je ne sais pas s'il a laissé des explications, je ne pense pas.
Il a rien laissé, hein. Il s'est pendu à Guido.
À Arduino, hein. D'accord.
Il y a l'hypothèse des difficultés avec ses collègues, mais qui sont plus du romantisme que de la réalité. Il souffrait de problèmes d'angine de poitrine, il avait perdu la vue, il avait besoin de quelqu'un, pas perdu complètement, mais il avait besoin de quelqu'un pour lire ses articles. Enfin, il était très dépressif, c'est quelqu'un qui avait besoin de voir. L'hypothèse qu'il était en difficulté, même avec les Allemands du Nord, qui n'aimaient pas beaucoup, soit Munich, soit Vienne. Ça, c'est une hypothèse un peu romantique. Hein. Quelqu'un qui suicide, on ne sait jamais trop pourquoi. C'est brutal, hein. Il est en vacances au bord de la mer avec sa fille qui va le découvrir. Et on ne sait pas trop. Difficile à savoir, mais il avait 62
ans. Oui. Il est né en 44, c'est ça, ouais.
Il est né en 44 et il suicide au moment où va un an après les articles d'Einstein sur le mouvement mondial.
Ouais.
C'est une belle illustration.
Voilà.
C'est un peu triste.
Oui, puis bah, c'est un moment où la mécanique quantique commence à apparaître aussi. Et qui est physique moderne, qui s'appuie effectivement sur le. Et puis les découvertes de Perrin. Où il dénombre les particules de pollen hein, dans un qui montre vraiment que le modèle atomistique est pertinent. Donc c'était Perrin, c'est
130,
ah non, c'est avant ça. Non, c'est je sais plus si il y a 1906 ou 1907 ou 19... enfin c'est dans ces eaux-là. Voilà. Bien.
Merci.